podcast Eutimia, les fondamentaux de la pleine conscience. Aujourd'hui, je vous amène sur un nouveau terrain que j'ai peu exploré avec vous, celui du leadership, comment la pleine conscience va soutenir le leadership dans les périodes de transformation. Je vous souhaite une très belle écoute et à tout de suite. Il y a plusieurs années de cela, on est en 2012, j'ai été sollicité par le Centre des jeunes dirigeants de la Côte Basque pour établir un programme basé sur la pleine conscience. Plusieurs d'entre eux avaient déjà eu une expérience du programme MBSR et avaient eu envie de diriger un programme, de préparer un programme à l'intention des dirigeants, notamment à l'intention du bien-être des dirigeants. À cette époque-là, il m'avait semblé qu'il y avait une dimension qui manquait dans l'approche du programme MBSR, programme de gestion du stress sur la pleine conscience, qui était une dimension plus collective. Et à mon sens, ne travailler que sur le bien-être du dirigeant n'était pas vraiment quelque chose de décisif pour pouvoir accompagner les dirigeants. En effet, la pleine conscience demande quand même une certaine forme de discipline, et surtout le programme MBSR s'est développé à une époque où ça concernait surtout des patients, des personnes qui étaient confrontées à une dimension individuelle qui était celle de la maladie, du mal-être. Et plus tard, quand le programme MBCT sur la prévention des rechutes dépressives s'est développé, c'est pareil. On était sur des problématiques qui étaient plutôt individuelles. Dans le cas qui nous intéressait, celui du leadership, ce qui nous concernait était une dimension à la fois individuelle et collective. Le dirigeant, quel qu'il soit, que ce soit un responsable d'équipe, des personnes qui sont engagées dans une dynamique d'association, sont contraintes à la fois de travailler sur eux en tant que personnes, et de travailler aussi sur le groupe. Et c'est encore plus vrai quand cette organisation est soumise à des transformations profondes. En conséquence, il m'apparaissait très intéressant de voir s'il existait des méthodes qui soient plus globales que simplement individuelles et basées sur l'attention. À cette époque-là, j'ai découvert une méthode qui était en train de se développer aux États-Unis, qui s'appelait la théorie U, ou le presencing, développée par Otto Scharmer, qui était un chercheur au MIT aux États-Unis, à l'université du Massachusetts. Dans son approche, il avait en fait contacté pas mal de chercheurs dans différents domaines, à la fois Francesco Varela, d'autres chercheurs qui étaient attenants à des dynamiques, on va dire, plus contemplatives, et aussi des économistes qui étaient en pointe sur les problématiques de transformation. Et tous faisaient le lien sur le fait que quand une société est en proie à des transformations très profondes, on ne peut pas juste changer le monde. Il y a un travail essentiel qui est à faire sur soi. On le voit d'ailleurs, quand dans les années 2010, il était question d'intelligence collective ou de projets collaboratifs, beaucoup se sont mépris en pensant que juste d'avoir de beaux idéaux, on allait pouvoir justement transformer une organisation et avancer comme cela. Malheureusement, les idéaux sont souvent basés sur les désirs et les espoirs, et si on n'a pas un peu de recul par rapport à ces désirs et à ces espoirs, c'est difficile de pouvoir s'engager dans un projet collaboratif. Il y a un travail sur l'ego, la conscience de soi, qui est nécessaire de conduire et qui n'est pas facile. Aussi, ce travail que proposait Otto Scharmer me paraissait assez complet parce qu'il comprenait à la fois ce travail sur soi et ce travail sur le groupe, ce travail sur les émotions et en même temps ce travail sur les dynamiques de groupe, sur les problématiques de transformation. De plus, il s'agençait dans une perspective de transformation plus globale en tentant de répondre à des crises environnementales et sociales très importantes. Je trouvais très intéressant parce que souvent, quand on a une pratique, par exemple, sur la compassion, on dit, tiens, il y a une demande, un besoin, et j'y réponds comme je peux. Mais parfois, notre réponse n'est pas forcément adaptée. On donne parfois l'exemple, en tout cas, Otto Scharmer, dans ses textes, dans ses études, avait pris l'exemple d'une personne qui était allée en Afrique, et qui voulait installer des pompes à eau. Mais ce faisant, les pompes à eau créaient un problème dans l'approvisionnement de l'eau et des nappes phréatiques entre deux villages, et finalement avaient créé plus de conflits qu'autre chose. Donc à chaque fois, dans les problématiques de leadership, il y a une nécessité d'avoir une capacité d'aborder le problème de différentes perspectives. Et c'est parfois ce qui manque. On a une vision et on y est attaché. Et il y a un certain nombre de biais cognitifs qui vont venir s'attacher à notre vision pour la justifier. Et qui fait que quand on va se rendre compte qu'on est dans l'erreur, c'est parfois trop tard. Si toutefois même, on se rend compte qu'on est dans l'erreur. Donc ce détachement par rapport à sa propre vision demande une écoute profonde, une écoute de ce qui est en train de se passer au niveau du champ, au niveau de la situation, au-delà des apparences. Et ça, pour cela, il faut dégager du temps. Et c'est parfois ce qui manque dans les organisations, notamment les organisations en transformation, quand il y a de l'incertitude, tout le monde est un petit peu paniqué. Et cette panique génère une forme de peur. On se retrouve un peu attaché à son pré carré, attaché à sa définition de la solution, alors qu'au contraire, il faudrait plus de détente et plus de recul. Dans cette approche de la pleine conscience basée sur une dimension plus collective, c'est ce qu'on essaie justement d'introduire. Introduire un peu plus de paix, un peu plus de recul, au moment où au contraire, tout le monde essaye de s'activer, tout le monde essaye de mettre les bouchées doubles. Pourquoi c'est nécessaire de faire ça? Parce qu'il est nécessaire d'introduire dans les moments de transformation des temps où on puisse sortir de d'une approche trop monolithique d'une situation. On observe que quand on est pris par le stress du changement, on a l'impression qu'on essaye d'être innovant, mais en fait, on fait simplement que répéter ce qu'on sait déjà faire. Pourquoi? Parce que simplement, les tensions mentales, mais même la pression sociale, nous oblige à tout de suite sortir des solutions et que ces solutions sont complètement antinomiques par rapport à des problèmes complexes. La définition même de la complexité, c'est que les parties prenantes apparaissent au fur et à mesure, les solutions n'apparaissent pas tout de suite, elles apparaissent par bribes, et les parties prenantes au problème n'apparaissent pas tout de suite, elles apparaissent aussi progressivement. Donc l'illusion de croire que face à une situation de transformation, on va régler comme une rustine sur un pneu crevé le problème et ensuite tout retrouvera l'ordre et on pourra continuer comme si de rien n'était, est en fait illusoire. De plus, souvent on est d'accord pour que les choses changent, mais la chose la plus difficile à changer, c'est souvent nous-mêmes. Et tout ça entraîne en cascade un certain nombre de processus, surtout à une époque comme la nôtre, où l'incertitude devient un élément constitutif du mode de décision. Et là, on parle de transformation, mais une transformation qui devient endémique. Du coup, les paramètres du leadership sont amenés à changer profondément. En cela aussi, la pleine conscience peut être un moyen profond de pouvoir à la fois trouver cet ancrage intérieur et en même temps cette flexibilité à l'extérieur de pouvoir percevoir, entendre différemment les problématiques. Et on le voit partout dans le monde actuellement, à partir du moment où on s'attache à une perspective trop univoque d'un problème, à ce moment-là, on rentre dans une forme de fanatisme plus ou moins élaboré, et il y a beaucoup de souffrances et de dérèglements qui peuvent encore se surajouter à travers ce genre de comportement, que ce soit à un niveau macro, individuel ou même dans notre environnement proche. Alors j'ai eu la chance de pouvoir dispenser ce programme dans différents milieux, que ce soit dans des petites structures comme avec le CJD, avec des dirigeants de petites et moyennes entreprises, mais également dans des grands groupes comme avec le IT Board de AXA Assistance ou auprès de Covéa ou auprès de Orange France ou même au niveau de certaines institutions plus locales comme le département de Gironde, auprès de certaines personnes dirigeante à l'époque, responsable au sein du département. Donc des collectivités très différentes, très hétéroclites, et qui ont chacune une manière spécifique de vivre le changement et la transformation. Et plus récemment encore, j'ai pu dispenser ce programme au sein du CHU de Bordeaux, quand on connaît la manière dont la santé publique vit à fond ce processus de transformation, voire même des fois de crise, le processus de pleine conscience dans ces organisations a pu permettre aux individus d'avoir des éléments, d'avoir des ressources pour pouvoir mieux accompagner les groupes et évidemment au final les patients. Donc, c'est vraiment important de pouvoir voir qu'ici, la dynamique de pleine conscience, elle va être à la fois individuelle et collective et s'adapter à la problématique du dirigeant, quelle que soit sa situation. Et pour ça, la première étape est de comprendre les défis spécifiques du leadership en période d'incertitude, un peu comme je viens de le faire à présent. Alors, la deuxième étape, quand on perçoit un peu mieux la manière dont le leadership se déploie dans les périodes d'incertitude, on va ensuite maîtriser des techniques de communication qui soient efficaces afin de pouvoir justement dialoguer dans les périodes de crise. Et souvent, on considère que le point clé de la communication dans le leadership, c'est faire part de sa vision. Et ici, ce n'est pas le cas. Ce qui va être décisif pour un dirigeant, c'est surtout ses capacités d'écoute. Et dans ces méthodes-là, l'écoute se décline en trois champs. Il va y avoir un champ qui est plus évident, c'est ce qui est l'information telle qu'elle est divulguée à un moment clé. Par exemple, le mur est bleu, donc l'information est contenue de façon explicite. Et puis ensuite, il va y avoir une information qui est plus implicite. Pourquoi la personne me dit que le mur est bleu? Prendre en considération le champ émotionnel de la personne, le champ social. Ça va être plutôt une information qui va être implicite et une écoute qui va être un peu plus profonde, qui va demander un peu plus de présence. Et puis, il va y avoir un troisième champ d'écoute, qui est un champ d'écoute plus subtil, où là, on est aussi sensible au fait d'interroger différentes personnes sur la manière dont elles vont vivre le mur bleu, pour reprendre un exemple complètement basique. Évidemment, sur notre exemple, l'implication du fait qu'un mur soit bleu a très peu d'intérêt, mais vous voyez qu'à travers cet exemple, ça peut se décliner sur des enjeux qui vont être beaucoup plus profonds et qui peuvent parfois être inaperçus. C'est ce qui s'appelle les signaux faibles. Quand on est pressé, les signaux faibles, on a tendance à pas les percevoir. On va s'interroger à ce qui est pressé, à ce qu'il faut produire, etc. Il nous faut prendre du recul pour pouvoir mettre bout à bout un certain nombre d'informations qui ont été, par exemple, dans la journée, pas si importantes que ça pour comprendre en fait le champ émotionnel qui est en train de se décliner à travers l'organisation dans laquelle on évolue. Et ce champ émotionnel lui-même va nous donner des informations sur quelque chose de plus global, de plus profond qui est en train de se tramer. Et ici, souvent, notre attention va être rivée sur des problèmes à régler. Mais souvent, ces problèmes à régler sont clivés dans une immédiateté. Et ici, ce qui est important, c'est d'arriver à ce que le dirigeant puisse passer d'un temps court à un temps long. Et un autre aspect de la pleine conscience, c'est non seulement d'arriver à avoir ces différents degrés d'écoute, mais arriver aussi à pouvoir se donner du temps, que ce soit individuellement avec ses équipes, pour pouvoir générer du temps long et que les informations qui soient tacites puissent remonter à la surface et devenir de véritables projets pour l'équipe de transformation, mais également de confiance. C'est pour ça qu'on parle généralement de communiquer avec authenticité. Communiquer avec authenticité, ici, c'est arriver à avoir un niveau d'écoute qui puisse permettre de passer d'une écoute basique, ceci est un mur bleu, à quelles sont les émotions qui sous-tendent cette observation et à qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi les personnes me rapportent tout d'un coup que les murs sont bleus? Est-ce que, il faut changer de peinture si on doit reprendre cet exemple? Est-ce que éventuellement il faudrait changer de lieu, etc. Il peut y avoir des fois des problématiques tacites qui se dégagent comme ça et dont il faut prendre du temps pour percevoir l'importance. Parfois, ce sera des informations qui ne sont pas importantes, mais parfois, ça va être des informations qui vont être importantes, à bas bruit, mais qui sont pas, si elles ne sont pas prises en compte maintenant, quand les choses vont évoluer, vont se révéler véritablement d'autres problèmes plus importants. Et c'est ce qui, dans ces approches-là, signifie communiquer avec authenticité. Et ensuite, une autre dimension va être intégrer la méditation et la pleine conscience dans la pratique du leadership. Qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça va aussi demander à la personne qui est dirigeante ou au groupe de dirigeants de pouvoir adapter un leadership qui soit adapté. C'est-à-dire que parfois on aura besoin d'être chef, parfois on aura besoin de générer de la coopération, parfois on aura besoin de générer de l'information et qu'une décision soit prise de façon créative, on va co-créer une décision. et d'arriver à ce que le groupe et soi-même en tant que dirigeant puissent arriver à manifester la posture qui soit la plus adéquate par rapport à la situation, va vraiment être un travail sur soi. Parfois, certains d'entre nous, on peut avoir la tendance à être un peu autoritaire et à considérer que le chef, c'est celui qui décide. Parfois, on a du mal à assumer cette posture et on pense que la décision est en fait simplement l'émanation du groupe et que le dirigeant en est simplement le porteur. Mais en fait, dans les situations d'incertitude, il nous faut basculer d'un extrême à l'autre. Et cet extrême à l'autre n'est possible qu'avec une certaine dimension de confiance au sein du groupe. Et finalement, le vrai travail du dirigeant est d'arriver à soigner cette confiance afin que le groupe puisse porter la posture du dirigeant et que le dirigeant puisse assumer sa posture. Et ça, c'est une des dimensions qui est, dans les situations d'incertitude, la plus délicate, je pense. Ensuite, une autre chose qui va être importante de développer dans les périodes d'incertitude, c'est la créativité. Qu'est-ce que c'est ici la créativité? C'est la capacité d'aborder un problème de différents points de vue. Donc, le groupe lui-même doit pouvoir se vivre de différentes manières, mais doit pouvoir aussi avoir la possibilité d'avoir suffisamment d'empathie pour pouvoir percevoir une problématique de façon différente. Donc ici, la créativité est vraiment très fonctionnelle et en lien avec l'empathie. L'empathie ici, contrairement à d'autres programmes de pleine conscience où cette notion peut être évoquée, a un aspect très fonctionnel, très mécanique si j'ose dire. Je ne veux pas du tout désacraliser l'importance de l'empathie, mais souvent, à trop vouloir inviter l'humain dans les organisations, en fait, ça fait 15 ans que j'entends qu'il faut que l'humain revienne dans les organisations et finalement, ça ne se fait pas. Et toutes les personnes viennent dans les programmes de pleine conscience en observant que dans beaucoup d'organisations, finalement, il y a une déshumanisation. Mais la première chose à faire pour qu'il y ait un peu plus d'humanité dans les organisations est d'arriver à se mettre à la place de l'autre pour voir comment il vit, comment il perçoit la situation. Si on est arrivé sur une simple perception de ses problèmes, avec ces données, on va simplement tourner en rond. Donc ici, une autre dimension du leadership, et ça c'est à la fois un travail individuel et collectif, est d'arriver à générer un espace d'écoute qui puisse faire qu'on puisse percevoir un problème de différents points de vue. Il y a un certain nombre d'exercices dans le programme Pleine Conscience et Leadership, ou Diriger dans l'incertitude, qui permet d'apprendre justement à se détacher de son point de vue pour pouvoir essayer de voir quel est le point de vue de l'autre. Non pas pour y adhérer systématiquement, mais simplement, un peu comme ce qui se fait dans certaines tribus aborigènes, avoir par rapport à une situation différents points de vue pour pouvoir décider. Si on n'a qu'un seul point de vue, le sien, à ce moment-là, dans les situations d'incertitude, on est sûr de générer de l'erreur, à court, à moyen et à long terme. Donc, si je vous dis ça de façon très péremptoire, évidemment, ce n'est pas juste moi en tant que ancien moine bouddhiste qui peut vous le dire, quoique les rares fois où j'ai eu des compétences de dirigeant autres que celles que je peux avoir dans Utimia, où j'ai pu observer un peu les situations, même sur des organisations de moyenne taille, j'ai pu m'apercevoir que les personnes qui sont souvent attachées à leur vision ou qui donnent des conseils aux autres sur ce qu'il faudrait faire sont souvent celles qui s'effondrent en premier quand l'incertitude s'élève. Donc, c'est quand même quelque chose que quand on traverse un peu la vie, a pu être vérifié et qui devrait, normalement en tout cas, être la conséquence d'une pratique de la pleine conscience qui est de développer cette créativité, la capacité justement de pouvoir voir avec les yeux de l'autre sans forcément s'identifier aux yeux de l'autre et à sa vision. Et du coup, la conséquence de tout ça, c'est d'arriver à avoir une représentation du futur qui soit beaucoup plus plurielle. Généralement, quand on propose un objectif, tout ça est très fonctionnel, on doit atteindre des objectifs, et ça fait partie du management, on n'est plus dans le leadership, et tout le monde doit adhérer à cette perspective du futur, et là, du coup, le rôle du leadership est que tout le monde adhère à une représentation du futur. Mais ici, vous voyez bien que cette représentation du futur, elle va être la conséquence de tout le travail qu'on vient de voir. Et en conséquence, elle va être évolutive, cette représentation du futur. L'intérêt qu'il va y avoir ici, c'est que ça va être une vision du futur qui sera beaucoup plus partagée et qui sera plus portée par les différentes parties prenantes de son organisation. En tout cas, c'est l'objectif. Ça ne sera pas tout le temps le cas à 100%, mais en tout cas, le fait d'utiliser les méthodes qui sont proposées dans ces approches basées sur la pleine conscience au niveau collectif facilite le fait que chacun puisse s'emparer d'une représentation du futur qui soit commune. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, qui participe justement d'une d'une manière d'envisager le management qui est légèrement différente, où chaque composante d'un groupe s'approprie la représentation du futur. Pourquoi? Parce qu'il y a travaillé individuellement. Et du coup, en termes d'efficacité, notamment dans les périodes d'incertitude, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus porteur, parce que chacun se sent acteur et se sent dépositaire d'un futur, parce que lui-même a collaboré à sa mise en place et à son édification. Enfin, et pour conclure, il va y avoir un dernier point qui va être important, qui va être l'application des principes éthiques au leadership. Dans les périodes d'incertitude, ou même des fois dans les périodes où il y a trop de certitudes, l'éthique pour un dirigeant va être quelque chose d'essentiel. Et c'est finalement assez facile de compromettre un peu son éthique à travers ce que des chercheurs appellent des dissonances cognitives, faire en sorte que petit à petit, compromis après compromis, on va se retrouver dans des situations où on agit complètement à l'encontre de notre éthique de départ. Comment cela a été possible? Par exemple, on a pu voir cela quand il y a eu des grands scandales autour de certains médicaments. Eh bien, en fait, l'ego prend le relais. C'est-à-dire que ça devient tellement vital pour soi-même de garder son pouvoir, garder son influence, garder son prestige, que finalement, à force de déni et à force d'auto-justification, comme dit le proverbe, chacun a ses raisons, on finit par s'auto-convaincre que ce qu'on est en train de faire n'est pas si grave. Et finalement, de petite compromission en petite compromission, on s'éloigne de ce qui est important pour soi, où on finit par ne plus même se rendre compte que ces compromissions nous éloignent de l'éthique et puis finissent par nous mettre parfois complètement hors la loi. Et le processus de la pleine conscience est d'arriver à identifier avec le plus de sincérité et de clarté possible ce qui nuit aux autres et à soi-même. Finalement, l'éthique, elle n'est pas très compliquée dans la pleine conscience. Il s'agit d'arriver à percevoir ce qui nuit aux autres et à soi-même. Et sur la base de cette éthique-là, justement, ensuite, arriver à préserver son intégrité et pouvoir agir en conséquence. Et cette clarté-là, elle va être déterminante pour pouvoir garder sa santé mentale, parce que à force de dissonance cognitive, on peut des fois perdre pied avec la réalité, comme on voit pour certains hommes politiques, par exemple. Voilà donc les points essentiels qui concernent ce programme. Donc, comprendre les défis spécifiques du leadership en période d'incertitude, et maîtriser les techniques de communication et les méthodes individuelles et collectives basées sur la pleine conscience qui vont nous permettre ensuite de communiquer avec plus d'authenticité. Authenticité ici, c'est donc cette capacité de pouvoir percevoir, écouter sur différents plans une information explicite, une information implicite et être sensible au champ, au contexte moins visible, un peu comme ce qui se passe dans la terre, par exemple, quand vous voyez un champ, vous voyez la couleur du champ de blé, ça c'est l'information explicite. Quand vous reconnaissez que c'est du blé, vous reconnaissez l'information qui est implicite. Et puis vous voyez la terre, si vous êtes un peu un fin connaisseur, vous voyez la terre sur laquelle le blé est en train de pousser. Et du coup, vous avez une perspective plus complète du contexte dans lequel ce champ est en train de pousser. Ça, c'est possible parce que vous avez capté toutes les informations de cette situation grâce à, en tout cas si on doit replacer ça ensuite dans le contexte de notre leadership, à une communication authentique. Intégrer la méditation et la pleine conscience dans les pratiques de leadership, c'est savoir améliorer ses facultés attentionnelles et pouvoir se ressourcer afin de prendre un peu ce recul nécessaire en situation d'incertitude et pouvoir passer d'un temps long à un temps court. Et puis il y a aussi la capacité de développer sa créativité, la sienne, mais également celle de son équipe, en mettant en place un certain nombre de méthodes qui nous permettent justement de changer de perspective. Ensuite, il y a la capacité de pouvoir changer sa représentation du futur, arriver justement à percevoir le futur avec plus de finesse et à établir des objectifs qui puissent être collectivement partagés et non pas imposés du haut. Ensuite, il y a l'application des principes éthiques au leadership qui vont faire qu'on va pouvoir se nourrir intérieurement à travers une vie éthique bien remplie, sans se perdre justement petit à petit avec des dissonances cognitives et un ego qui va finir par être trop envahissant et conduire à être hors sol en quelque sorte. Toutes ces parties sont aujourd'hui, me semble-t-il, encore plus qu'avant quelque part, importantes pour pouvoir mener un leadership dans une période d'incertitude. Donc voilà quelques principes de base. Aujourd'hui, ils sont assez répandus parce que cette méthode du presencing s'est bien répandue à travers le monde. Mais il y a encore beaucoup à faire à notre époque. Et c'est aussi un programme qui s'adresse à différents types de leadership. Tout à l'heure, je vous ai parlé de différents types d'organisations. Mais le fait des fois d'avoir ne serait-ce qu'à gérer sa famille dans le contexte actuel, des fois c'est très compliqué et assez complexe aussi. On peut se sentir concerné. À très bientôt donc autour de cette réflexion sur le leadership. N'hésitez pas à reprendre contact avec nous si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez nous interpeller sur tel ou tel point. J'espère que ces quelques informations vous auront donné une idée plus précise de ce que peut induire la pleine conscience dans le leadership. L'essentiel est d'aller un peu plus loin que simplement le bien-être individuel, de comprendre qu'il y a vraiment des enjeux plus profonds et qui vont solliciter votre attention au plus profond de soi. À très bientôt.